France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
C'est un endroit de tradition.
Mixité sociale, de la rencontre, le semainier et l'œuf mayo indispensable.
C'est un antidépresseur et pour moi, c'est un endroit de repère.
Moi, je vais parler à ça, vous savez bien que les gens aiment à sortir chez eux au café.
Mais moi, je me sens pas chez moi ici.
Moi, je dirais d'abord le brouhaha et puis une carte des vins généralement identitaire qui est à la tronche du patron ou de la patronne.
Vous buvez combien de verres en moyenne?
Je bois à peu près 1 litre de vin par jour.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Que reste-t-il du bistrot? Un vieux zinc avec une patronne ou un patron fort en gueule, des nappes à carreaux, une ardoise avec des spécialités canailles à prix plutôt accessible. Voici quelques indices parmi tant d'autres qui permettent d'identifier un authentique bistrot. Bonne nouvelle, cette institution populaire bouge encore sur la scène gastronomique parisienne avec les équipes dont on va déguster celle de Très Très Bon, notre émission sur Paris Première. Nous sommes partis à la recherche des meilleurs bistrots de la capitale et cette quête gourmande fait l'objet d'un documentaire, Les Très Très Bons Bistrots, qui sera diffusé le week-end prochain, le samedi 1er juin à 19h55 sur la chaîne Paris Première. Nous allons vous révéler aujourd'hui nos bistrots coup de cœur. Et parmi ces meilleures adresses, il y en a une où nous avons carrément nos troncs de serviettes, c'est le bistrot Les Arlots, une petite bulle de bonne humeur et de bonne chair au cœur du quartier Barbès, Paris 10e. Son chef est avec nous, Thomas Brachet, bonjour.
Et bonjour, merci de m'accueillir.
Ben, merci d'être là, surtout puisque vous êtes arrivé en plus les bras chargés. Vous allez nous faire goûter un très bel aperçu de votre splendide cuisine pleine de cœur et de sentiments. J'aperçois évidemment des œufs mayo, il y a un pressé qui ressemble un peu à un jambon persillé bourguignon, il y a également la terrine du chef, tout ça, on va en parler avec vous. Quelles sont les origines du bistrot? D'où vient le mot bistrot? Quels sont ses codes culinaires, sa sociologie? On en parle avec Laurent Bill, bonjour.
Bonjour à tous, ravi d'être là.
Vous enseignez l'histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, c'est bien ça?
C'est ça.
Et vous signez une histoire populaire des bistrots chez Nouveau Monde Édition. C'est un gros pavé.
Qui j'espère est digeste.
Ah bah en tout cas, pour se muscler les biceps, c'est pas mal parce que c'est un gros pavé passionnant, très bien nourri, préfacé par votre ami
Pascal Horry.
Pascal Horry, absolument, membre de l'Académie française. Merci beaucoup d'être là. On va en savoir plus sur l'histoire de ce fabuleux bistrot. Avec nous également, Zazie Tavitsian et Dominique Hutin. Salut les copains.
Salut.
Hello.
Zazie.
Alors moi, je suis allée interviewer une bistrotière de talent, si sympathique que j'ai bien failli ne jamais pouvoir repartir de son bistrot.
Ah ouais, formidable bistrot dont on va vous révéler l'identité dans le courant de cette émission avec une patronne haute en couleur en effet, Dominique.
Et moi, je vais vous inviter à un voyage au bout du zinc. On va boire la piquette et le pire, c'est que vous allez en redemander.
Ah, comment se fait-il? C'est possible. Bon.
La preuve, preuve est faite, sera faite en tout cas.
La punition de la piquette dans nos verres, on va voir ce que ça va donner avec notre cher Dominique Hutin. Nos meilleures adresses de bistrot, on vous l'a dit, nos recettes, nos podcasts, tous les contenus de l'émission sont à retrouver sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Une qualité d'un bistrot, il y a beaucoup d'habitués qui viennent, ça papote.
L'ambiance est très bonne.
Œuf mayo au Mélilo. La mayonnaise est ferme. Délicieux. Et l'anguille et l'œuf, ça apporte vraiment le sel à la mayo. Et on adore ce jaune, quoi. Ok, là on rentre dans le vif du sujet. Les tripes, la saucisse. Donc ça c'est marrant parce que c'est un petit peu la spécialité aussi d'ici, la saucisse purée. Mais là on voit dans un plat tripié avec le jus brillant, toujours. On va goûter. On n'en peut plus. C'est vraiment très très bon. Là, tripier de haut vol. C'est vraiment un régal.
C'était un extrait des Très Très Bons Bistrots, ce documentaire qui sera diffusé le week-end prochain sur Paris Première, un véritable road movie que nous avons tourné pendant plus de 6 mois. J'étais accompagné dans cette quête d'un éminent jury, alors Marie-Victorine Manois, qu'on entendait, qui est une super chef cuisinière, justement, aux Arlots, on va en parler, mais on participait aussi à cette quête. Le sommelier Guilherme de Serval, le cuisinier Anthony Cointre, la journaliste gastronomique Louise Petit-Renaud, le patron du Guide Lebet, Pierre-Yves Chupin, sans oublier notre inénarrable chroniqueur vin, Jérôme Jérôme Gagnez. On a beaucoup donné de nos personnes, alors on a d'abord identifié 50 bistrots pur jus dans la capitale. Nous les avons testés sans prévenir de notre visite et en payant systématiquement nos additions. Et nous avons désigné les meilleurs bistrots de Paris. Alors, faudra attendre le week-end prochain pour le palmarès, mais comme on est sympa, on a quand même déjà commencé à vous dresser une liste de nos 12 bistrots préférés à retrouver sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. Et évidemment, dans cette liste, figurent les Arlots, bistrot pur jus. L'adresse, s'il vous plaît, Thomas Brachet.
136 rue du Faubourg Poissonnière à Paris, dans le 10e.
On est juste en bas du quartier Barbès, au nord de Paris, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Les Arlots, voilà un mot totalement oublié de notre vocabulaire. C'est quoi un Arlot?
Un Arlot, c'est un mot d'argot pour arlequin. Les arlequins étant les terrines de reste constituées à partir de la desserte des grandes tables de l'époque, qui étaient revendues et retravaillées, revendues encore une deuxième fois sur les marchés. Donc c'était un fourre-tout plus ou moins savant de sucré salé et donc acheté par, on va dire, un peu des gens un peu nécessiteux. Donc c'est une terrine de reste, un arlequin, parce que le costume d'arlequin était un patchwork de reste.
C'est ça, bah c'est très très bien dit. Dominique a une autre définition pour Arlot, non?
Oui, il y a une traduction plus liquide dans cette histoire-là, c'est la grappe qui a souvent échappé à la vendange et qui présente un déficit de maturité. Ça intéresse beaucoup d'ailleurs les cuisiniers, dans le sens où on s'en sert pour faire les verjus, qui est un peu l'ancêtre du vinaigre finalement.
Très bien, on entendait dans l'extrait du documentaire Marie-Victorine Manoa, chef cuisinière, commenter précisément ces œufs maillots qui, comme par miracle, on parle évidemment de ceux qui sont signés par Thomas Brachet aux Arlots, ce bistrot parisien, ils ont atterri sur notre plateau. Laurent Bille, vous munissez de vos couverts,
oui.
Vous les goûtez et vous nous faites un commentaire de dégustation.
Courageusement.
Oh, le pied.
Alors, extrêmement onctueux.
Ah oui.
Avec une cuisson magnifique, mais derrière, l'assaisonnement est complètement novateur. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est dans l'inventivité.
On n'est pas dans l'œuf maillot au pied de la lettre.
Voilà, donc on est vraiment dans une rencontre de l'histoire avec le contemporain qui est absolument extraordinaire au niveau des papilles.
Mmh. Zazie ?
Alors moi, je les connaissais déjà, mais je me régale toujours. Il y a la petite...
Oui, parce que c'est une habituée, Zazie Talition.
Une petite mayonnaise au Mélilo. Donc exactement. Ça apporte effectivement la touche assez aromatique. Et il y a ces petits pois aussi qui viennent surmonter l'œuf maillot. Ça, c'est pas mal parce que l'œuf maillot, c'est quand même assez... assez mastoc, quoi. Donc on a presque l'impression de manger quelque chose de d'aérien, de très...
Justement, on a quand même au moins quatre textures en tout. Si on compte maillot, œuf et tous les après.
On ne met pas de côté la partie végétale aux Arlots. Hein. C'est important de le dire. Il y a beaucoup de viande, mais on aime bien les légumes et les traiter...
Et l'œuf est un légume.
on a compris que l'œuf maillot est l'un des emblèmes de votre bistrot les Arlots, Thomas Brachet, sauf que comme dans la mode... L'œuf maillot change de look selon les saisons, c'est bien ça?
Oui, déjà nous, pour ne pas s'ennuyer, pour nos clients habitués...
Parce qu'il y a quand même des clients qui se pointent 4-5 fois par semaine.
Oui, oui.
Donc il faut varier les plaisirs.
Il faut varier les plaisirs, il faut que nous, on puisse se divertir. Et c'est vrai que l'œuf maillot, il se prête à plein de...
Ah, mais vous en faites une valeur d'étonnement.
À plein de combinaisons.
Mélilo, pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est une plante, ça c'est la graine d'une plante qui a une molécule commune un peu à la fève de tonka, à la coumarine, à la vanille. C'est un peu ce qu'on appelle la vanille du pauvre.
Ça développe ce côté un peu boisé, un peu presque parfois amande amère.
Un peu amande amère, là t'as vu un peu estragon même.
Et là votre idée c'était un peu de faire une hybridation entre l'œuf maillot dans tout ce qu'il a de plus classique et les fameux petits pois à la française. Parce qu'il y a des petits pois, il y a également une émiettée de
jambon. De jambon croustillon, ouais. On part pas dans des délires, mais effectivement, on s'inscrit dans la saison à chaque fois.
Là où on est justement un peu dans la tradition, c'est que c'est un œuf maillot qui n'appelle pas tant que ça le blanc. On pourrait parfaitement avoir un trousseau, du Jura, un vin rouge donc un peu léger, un Beaujolais de très bonne texture, de très bonne facture, mais vraiment quelque chose justement de comptoir. Et le rouge de comptoir va tout à fait avec l'œuf maillot. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus traditionnel.
On attaque très fort dans cette émission sur les bistrots avec les œufs maillot créatifs signés Thomas Brachet, le chef des Arlots. Paris 10e, c'est Anaïs Reinhardt qui réalise cette émission avec à la technique Laurent Baudouin. Fabrice Riveau pour la préparation et la coordination de l'émission. L'histoire des Arlots, ce bistrot parisien phénomène, mais aussi la belle saga des bistrots, on vous en parle dans un instant avec nos invités. Je voudrais vous mettre dans les oreilles une petite surprise, une chanson interprétée par la comédienne
Pauline Carton, ça vous dit quelque chose ou
pas? Bien sûr. Ah. Sacha Guitry.
Bravo, absolument. Avec attention le titre. Ah, quel rêve d'être bistrot, une chanson extraite d'une opérette de 1915. Ça ne rajeunit pas Dominique Hutin. C'est une trouvaille de notre programmateur musical Djoubaka. On joue des coups au bistrot sur France Inter.
Avec un beau comptoir en étain reluisant.
Quel rêve, un petit comptoir en étain qui brille au rayon du matin. Des bouteilles bien alignées sur deux, trois ou quatre rangées. Verser des verres de Bordeaux et des verres de vin nouveau. Quel rêve d'être bistrot qu'il se réalise bientôt. À quel rêve d'être bistrot. Il se réalise bientôt, 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 bientôt. Tablier bleu à la ceinture, en plastron sur je serai très bien. La serviette sur le bras, quelle tournure. Me voyez-vous, quel chic, quel chien.
Le matin faudra que j'astique le comptoir d'un bras vigoureux. Puis pour attirer la pratique, je prendrai des verres avantageux.
Avantageux, avantageux, avantageux.
Un petit comptoir en étain qui brille au rayon du matin. Des bouteilles bien alignées sur deux, trois ou quatre rangées. Verser des verres de Bordeaux et des verres de vin nouveau. Quel rêve de grand bistrot qu'il se réalise bientôt. Ah, quel rêve d'être bistrot, qu'il se réalise bientôt, 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 bientôt.
Et le soir j'aurai le sourire, c'est le moyen d'avoir des clients. Sans compter que ça vous attire, quelquefois d'autres agréments.
Madame Pourriche, pas de bêtises, vous dirai-je si vous me trompez. À la tête, il faut que je vous dise, je vous enverrai.
Quoi?
Mes pichets.
Oh, vos pichets, monsieur.
Oui, madame, mes pichets.
Non, 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 on ne se battra pas. Nous aurons beaucoup de bonheur et...
Un petit comptoir en étain qui brille au rayon du matin. Des bouteilles bien alignées sur deux, trois ou quatre rangées. Verser des verres de Bordeaux et des verres de vin nouveau. Quel rêve d'être bistrot, qu'il se réalise bientôt. À quel rêve d'être bistrot, qu'il se réalise bientôt, 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 bientôt.
Laurent Bill, on ne faisait pas que manger et boire dans les bistrots, visiblement on chantait aussi.
On chantait bien sûr, on chantait depuis toujours, mais ce qu'il faudrait peut-être spécifier, c'est qu'à partir du moment où il y a eu véritablement une chape de plomb qui s'est abattue sur la France en 1815, après la République, au moment de la Restauration, il y a eu finalement deux façons de faire de la politique, puisque tout était interdit. C'était la presse clandestine et c'était la chanson. Alors comme la presse était clandestine, fatalement, on imprimait clandestinement, ça faisait pas grand-chose. Mais par contre, on a chanté beaucoup, et c'est tout le phénomène des goguettes, hein, que Philippe Darulla a beaucoup étudié dans sa Muse du peuple, hein, son bouquin remarquable. Et derrière, eh ben, la chanson est devenue le vecteur à la fois de toute une transgression, toute une opposition, une insatisfaction, un mécontentement, un ferment révolutionnaire, et derrière une tradition populaire de joie qui s'opposait évidemment à toute la tentative de récapitulation ou de restauration de l'Ancien Régime. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la République est née justement de cette tradition chansonnière.
Ouf, carrément. Ah, Thomas oui. Brachet, je décline votre identité. Vous êtes né à Évry, dans l'Essonne, le 29 juillet 1979, d'un père parisien, d'une maman corse.
Oui.
Vous avez 45 ans, vous êtes le papa d'une fille de 7 ans, Lily.
Oui.
Je dis Lily parce qu'il y a une annexe aux Arlots, qui est le croisement de deux prénoms féminins.
Effectivement, mon associé a aussi eu une fille qui s'appelle Billy, donc on a appelé notre bar à vin le Billy Lee.
Génial,
Billy Lee. Il y a un petit cœur dans le porte-monnaie.
Qui est sur le même trottoir que les Arlots. Hein.
Exact, c'est collé, c'est au même numéro.
On est rue du Faubourg Poissonnière.
Ouais.
Et vous possédez les Arlots donc avec votre copain et associé que vous évoquiez, Tristan Renaud, qui se qualifie lui-même de dénicheur de vin nature. S'il fallait, cher Thomas, d'écrire en quelques phrases, pour celui ou celle qui n'y a jamais mis les pieds, les Arlots.
Les Arlots, c'est une auberge urbaine qui s'inscrit dans son quartier.
Mm-hmm.
Un endroit où il y a toutes les générations qui se mélangent, toutes les nationalités, les locaux, ceux qui ont fait un petit peu de voyage, ceux qui ont traversé la planète. On essaie de créer un moment de confiance.
Moment de confiance, c'est joliment dit ça.
Ouais, bah ouais, ouais. Tu vois, de confiance, tu viens parce que t'es quand même. T'as envie d'être 100% garanti, quoi, tu vois, 100% content, d'être 100% détendu, ça marche par notre accueil, la nourriture, c'est un tout, hein. Moi, c'est, ça s'arrête pas qu'à la nourriture, le bistrot, hein. C'est une expérience globale. Et donc voilà, le but, c'est de créer quelque chose, un moment doux, drôle.
Parce qu'il y a effectivement cette atmosphère, comment on pourrait la décrire, Zazie, une espèce de brassage avec une convivialité très très forte qui fait écho justement à cette... la convivialité des bistrots d'antan. On est un peu serré, il faut quand même bien le dire. On est même un peu au coude à coude.
On est obligé d'être,
d'être serré.
La convivialité est obligatoire.
Il y a une question de régularité aussi.
Voilà,
De vous retrouver vous, de retrouver le sommelier, des habitués. Il y a ce côté, on peut dire, un peu comme à la maison, mais on sait un peu qu'on va retrouver des visages connus et qu'on va retrouver une cuisine qu'on aime bien, mais ça n'empêche que c'est une cuisine aussi qui varie au fil des envies, des saisons. Mais c'est ce côté régulier de retrouver des figures comme ça, c'est ça qui est aussi beau dans le bistrot.
Et vous êtes d'ailleurs là la plupart du temps. Il y a un bistrot, c'est un chef, un patron, une patronne.
Oui, on l'incarne, si c'est le terme qu'il faut employer, quoi. On est dedans parce que ça nous plaît. Moi, j'adore ça, Tristan, il adore ça. On est très humain, on se marre en fait, on prend vraiment du plaisir et ça fait un joli balai. Je rebondis sur ce que tu dis, Zazie, c'est qu'il y a même des gens qui nous connaissent bien, qui viennent tout seuls. C'est que tu vas pas t'ennuyer, quoi.
Bah, la dernière fois qu'on est venu, il y avait le psy qui a son cabinet juste sur le trottoir d'en face.
Oui, bien sûr.
Il y avait un jeune Montréalais avec plein de tatouages qui venait se frotter comme ça à une ambiance très parigote. Il y avait vraiment des gens de toute génération et de toute condition, en fait. C'est ça qui était assez chouette.
Et en plus, on peut venir pour manger.
Hein ben oui, en plus. Et j'allais le dire, on peut venir pour manger avec une ardoise très tenue, avec bah, évidemment les grands classiques de bistrot, mais toujours revisité avec une précision absolument spectaculaire. Et ça, c'est lié notamment à votre passé de cuisinier dans de très belles maisons, la science des jus, la précision des cuissons, des assaisonnements, les équilibres de saveurs. Tout cela, on les retrouve pour une expérience gastronomique pleine d'émotions. Est-ce que là, on est en train d'approcher, Laurent Bill, la définition de ce que pourrait être le bistrot idéal?
Je me garderais bien de mettre une définition, quoi que ce soit, à un lieu aussi complexe. En revanche, donc, le patron, la patronne façonne le lieu. Là, on est vraiment sur quelque chose d'essentiel. Le cadre est qui est à la fois une question de déco, mais aussi le cadre humain. Et là, on vient de vraiment d'évoquer quelque chose qui est fondamental, c'est l'habitué. L'habitué, donc l'habitude, et qui fait que, alors, je vais prendre le contre-pied de ce que vous venez de dire, pardon, justement, le bistrot, c'est pas comme à la maison. C'est le contraire. Parce que à la maison, on a une torpeur, on a quasiment des réflexes, alors qu'au bistrot, on a ses habitudes qui rencontrent les habitudes du voisin. C'est-à-dire que chacun a sa place, chacun se répartit, chacun se retrouve. C'est une solidarité assumée, voulue, recommencée. Et ce qu'il faut dire par rapport aux Arlots, c'est que cette frontière entre le 9e et le 10e, et il y a là une espèce de microcosme dans lequel quelques établissements arrivent à faire naître une authenticité qui est une authenticité vraiment rare.
Même si ces arrondissements n'ont pas échappé à une certaine gentrification, diraient les sociologues. On pourrait parler, si on était journaliste, de boboïsation.
C'est justement ça qui fait le miracle de cette espèce de nœud de quelques rues qui, justement, subsiste contre l'envahisseur, à l'image du village d'Astérix. Il y en a d'autres dans Paris, mais ils ne sont plus tellement fréquents.
Laurent Bill, immense paradoxe. Le bistrot, on arrive tous à se le représenter. Là, on a fait un tour de table, tout le monde a son avis sur la question. C'est vraiment une institution qui appartient à notre imaginaire collectif. Et en même temps, pour le définir, ce n'est pas une mince affaire. Ses contours, ses origines varient selon les exemples. La définition du bistrot, elle est un peu à géométrie variable, si j'ose dire.
Bah, n'importe qui a la sienne. C'est ça, justement, ce qui relève de la tradition, ce qui relève de la culture. Maintenant, pour effectivement vraiment se mettre dans le dictionnaire, bonjour et bon courage. Simplement, la catégorisation de populaire. C'est quoi quelque chose de populaire? Un bistrot, un caboulot populaire en ville ne sera pas le bistrot, le caboulot populaire en banlieue ou à la campagne. C'est quelque chose de tout à fait différent. Et les routiers, où est-ce qu'on les met, les routiers? Il y a quand même... Il y a finalement trois grandes typologies, une typologie de trois espaces. Bon, vous avez le café de la campagne qui, pendant 1000 ans, va être dominant en France, hein, puisque je vous rappelle, l'explosion urbaine, c'est la révolution industrielle. Puis vous avez donc le café de la ville. Café de la ville qui devient un café de banlieue qui n'est pas le même que le café de la ville, parce que le café du centre-ville, le café justement des Champs-Élysées n'a rien à voir avec le petit café de Barbès, et puis donc le café de banlieue qui est encore autre chose, et entre le café rural et le café urbain, vous avez le café de route. Bon, mais si on commence derrière à s'intéresser au bar des docks, au café littoral, au buffet de gare, au café de mineur, vous allez vous apercevoir que la catégorisation de populaire est complètement absurde.
Il y a une grande diversité sémantique.
Et
hein.
C'est justement là l'intérêt. Où, pour parler d'un sujet pareil, il faut un gros livre. Je suis désolé. Mais je suis désolé, mon livre est gros, mais il le fallait
j'allais
bien.
J'allais y venir. Et vous explorez justement toutes les réalités historiques, culturelles, sociologiques du bistrot à travers cette histoire populaire des bistrots, Nouveau Monde édition. Je me suis régalé à sa lecture. C'est vraiment un livre...
c'est un magnum pour le prix d'un pichet.
Voilà, c'est bien dit, mais vous faites bien votre promotion.
Je vous vendez au kilo, peut-être.
Je vous en félicite. Est-ce que, Laurent Bille, on pourrait essayer de passer pour appréhender ce bistrot, passer par la définition du mot, parce que c'est vrai qu'on a un peu tout entendu sur bistrot, y compris cette hypothèse tout à fait farfelue. Tout le monde connaît la fameuse histoire de l'invasion de Paris par les Alliés en 1814.
Bistrot, bistrot.
Assoiffés, les Cosaques se précipitaient dans tous les débits et réclamaient à boire. Bistrot, 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 qui voudrait dire vite,
vite oui,
en russe,
pour être servi vite.
Mais
oui.
Ça, vous ne versez pas dans cette...
C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on ne trouve pas trace de ce mot avant 1884. Alors, c'est un peu gênant pour un mot populaire. Non, soyons sérieux. Le bistrot serait né du bistot, qui était un domestique de marchand de vin dans le Poitou, ou de la... Alors, moi, je suis plutôt un bistrouille, c'est-à-dire cette habitude dans le nord ou dans le Thiérache de touiller un fond de marc de café avec de l'alcool. Et puis, derrière, le troquet ou le bistrot, par une contraction des deux termes, eh bien, le bistrot est devenu le lieu. Et puis, la bistrotte, en même temps, la femme du patron du lieu. Et puis, le troquet est devenu aussi une autre appellation. Et puis, une taxinomie, comme on dit à la fac, c'est-à-dire, en fait, une incroyable variété pour dénommer ce lieu, puisque je mets en amorce de mon livre une cinquantaine de termes pour appeler ce lieu, et encore, pour ne pas lasser, j'en ai mis que 50, mais si on entre après dans les patois, on pourrait en fait en trouver 200 ou 250.
Cabaret, taverne, café, bouchon, estaminet, guinguette, buvette, troquet, bistroquet, bouge.
Caboulot.
Caboulot, évidemment, comme quoi il y a du boulot pour définir le bistrot et le caboulot. Il y en a une qui a aussi essayé justement d'approcher le bistrot et de la plus belle des manières, c'est Zazie Tavitian.
On va déguster. Sur France Inter.
Zazie, pour votre reportage, vous êtes allée interviewer une bistrotière pur jus en plein cœur de Paris.
Et oui, François-Régis, je suis allée rencontrer Anne Bourlois dans son restaurant Au Vieux Comptoir, qu'elle tient depuis presque 24 ans à Châtelet, dans le premier arrondissement. Et vous allez l'entendre, il était 11h du matin et j'ai tout de suite été très bien accueillie.
Bienvenue.
Merci, ouais, bonjour. Bonjour.
Pétillante que téléphone.
Ah, bah merci, bah vous aussi. Enchantée.
Enchantée, Anne. Vous voulez un petit jus de cuir, un café? J'ose pas vous proposer l'apéro, mais c'est l'heure sinon. Hein.
Un petit café, c'est parfait.
Allez.
On a un décor de table en bois, de bistrot. On a des serviettes de chez Artigas dans le Pays Basque avec des ronds de serviettes. Voilà, comme à la maison. Il y a du vin partout, trop de vin, on ne sait plus où le ranger. On a un grand miroir avec une formule que j'aime beaucoup qui est le magnum et le format idéal pour deux personnes, surtout quand l'autre ne boit pas. Je trouve ça très canaille et très bistrot.
Vous êtes tombée sur ce lieu et pourquoi vous avez eu envie de l'acheter ?
Alors, j'avais une gérance dans le Marais et je voulais une affaire à moi. Et on m'a parlé de cet endroit et j'ai eu un vrai coup de cœur. Le bistrot était dans son jus. Les clients qui étaient là, c'était les vieux du quartier qui avaient tous une histoire à raconter. Et je me suis dit, je vais continuer le lien. Et j'aime l'idée que ça soit un lieu où qu'on soit parisien, provincial, ou qu'on sache qu'on peut venir au Vieux Comptoir et que Anne est là. J'ai envie d'un repère. C'est important de transmettre aux jeunes qu'il y a le métier de salle, c'est un très beau métier de passion, et qu'il faut le faire avec ses tripes et qu'il faut le faire en ayant envie de donner quelque chose. Aussi montrer que les femmes ont leur place. Alors aujourd'hui, il y a énormément de femmes sommelières, il y a énormément de patronnes de bistrot. Au début, c'était par exemple pour moi très difficile. Les gens rentraient dans le restaurant, ils me disaient « mais Le patron, il est où ? Ben, je lui dis, ben, c'est moi. Non, non, mais envoyez-moi la personne qui s'y connaît en vin. Alors, ça va être toujours être moi, parce qu'on est une toute petite équipe. Et les gens avaient du mal à s'imaginer qu'une femme jeune puisse avoir des connaissances, être passionnée et être à l'écoute.
Et alors là, je vois que c'est peut-être l'heure du repas du personnel. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on va manger ce midi ?
Alors aujourd'hui, on a déjà une nouvelle création en pâté en croûte. On a le pâté en croûte classique, mais en plus on en a fait un avec du foie gras et des morilles. On a aussi une tatin de boudin noir. Donc pâte feuilletée, boudin noir maison, on fait toute notre charcuterie, donc on fait notre boudin noir. Vous aurez aussi des rognons de veau, on fait des rognons de veau entiers chez nous. Sauce moutarde, ça fait partie des plats qu'on n'a jamais enlevés de la carte. Comme le bœuf bourguignon, et on le sert en cocotte, et on finit en mettant des mouillettes au fond de la cocotte staube, et c'est trop gourmand. Bon, ils ont du mal à faire fromage et dessert après, mais ils passent vite au baba au rhum, qui est chez nous, ivre de rhum.
Il faut mieux avoir faim quand on vient chez vous quand même.
Alors, si on n'a pas faim en arrivant, normalement, oui, à un bout d'un moment, on a faim. En tout cas, on n'a plus faim en sortant. Hein.
Alors, je me suis attabée, il était midi et je me suis régalée. J'ai commencé par le fameux pâté en croûte maison, très copieux. Mais heureusement, je n'étais pas toute seule, car très vite, les habitués ont commencé à affluer. Et j'ai récupéré deux nouveaux amis à ma table.
Et ben voilà, c'est ça les bistrots.
Voilà, c'est ça. Deux personnes, je précise, que je ne connaissais pas du tout avant et donc à qui j'ai tendu mon micro.
Alors, je m'appelle Sylvie et je connais ce lieu depuis au moins une décennie, au moins.
Et vous, pourquoi ce lieu, vous l'aimez tant et vous revenez régulièrement ?
Je pense que dans les bistrots, il y a deux choses. Il y a effectivement la table, ce qui est dans l'assiette, ça c'est la base qui fait qu'au départ, on vient pour ça. Et puis après, bah, il y a l'ambiance et l'équipe et d'être un peu bah, comme à la maison, de se sentir chez soi... En mangeant des produits de qualité, on finit par se connaître. C'est magique, c'est la magie des bistrots.
Et vous venez ici pour manger des choses en particulier ?
Alors, j'ai arrêté de prendre les rognons, parce qu'il y a un moment, il faut changer de plat. Mais c'est vrai que j'ai eu tendance à reprendre exactement les mêmes choses. En me disant, oh, c'est super, il y a ça, il y a ça. Je goûtais dans les assiettes des convives qui étaient à mes côtés ou pas d'ailleurs, parfois aux tables à côté, c'est l'intérêt des bistrots, on peut faire ça. Mais là j'essaie de changer, et le midi il y a une carte différente suivant les saisons, le marché, donc on a envie de tester, bien sûr.
Et je suis aussi avec un autre habitué qui en plus travaille aussi à Radio France, mais c'est complètement un hasard. Et en même temps, c'est pas étonnant parce que Anne me disait qu'ici c'était aussi un peu un repère de jazzman ou de gens qui aiment le jazz.
Oui, oui. Donc moi, je m'appelle Alex Dutil, je travaille à France Musique tous les jours, et c'est à cause du jazz que je suis venu ici. Quand je cherchais une sommelière qui connaissait le jazz dans une émission que je faisais sur le jazz et le vin. Et du coup, on est devenu... j'ai voulu goûter ce qui se passait ici. Et j'en suis sorti convaincu que c'était un lieu avec une authenticité et une générosité. Après, c'est devenu une cantine parce qu'on est au centre de Paris, on est tout près de la rue des Lombards. Et j'ai amené énormément de musiciens américains ici. Et ils sont absolument ravis parce qu'ils sont dans une sorte de quintessence du bistrot parisien. Vous avez vu, quand on arrive, quand on est connu par la patronne, il y a un petit verre qui arrive, on est de suite enclin à se laisser aller.
Et là, je vais peut-être vous laisser manger parce que je vous parle, et devant vous est arrivée une mortadelle qui sent un peu la truffe. Et vous êtes très poli, vous ne la mangez pas, mais vous avez peut-être envie de la manger. Alors voilà, ce que me disait aussi Alex Dutil, c'est que les clients proposent parfois des idées de plats au chef qui les testent et les mettent à la carte quand ça leur plaît. Alors moi, après le pâté en croûte, j'ai dégusté la tatin de boudin qui était vraiment très bonne.
Boudin maison,
accompagné d'une purée vraiment bien généreuse en crème et en beurre. Tout ça cuisiné par le chef Julien Bertel qui travaille ici depuis 15 ans. Bon, après, j'ai passé mon tour pour le baba parce que j'avais quand même bien mangé. Et j'ai aussi interviewé beaucoup d'autres habitués, dont Jean-Philippe, dont la mère et la grand-mère étaient bistrotières, mais aussi une table avec des collègues de travail qui viennent là tous les vendredis midi, ou encore deux amis fans de On va déguster, donc qui doivent être en train de nous écouter aujourd'hui. Et c'est simple, j'ai bien failli ne plus jamais pouvoir repartir du bistrot.
Allez, Zazie, l'adresse de ce formidable bistrot qui fait très envie au vieux comptoir.
Alors, c'est au 17 rue des Lavandières Sainte-Opportune, dans le premier arrondissement arrondissement de Paris. C'est ouvert du lundi au samedi, midi et soir. Et il n'y a pas énormément de tables, donc mieux vaut appeler pour réserver. Et je vous remets toutes les infos sur le site de l'émission.
Et je précise qu'au Vieux Comptoir, dans le premier arrondissement de Paris, fait partie de la liste de nos bistrots coup de cœur avec Caluche dans le 5e, le Griffonnier dans le 8e, le Bossé dans le 4e, le Bistrot Paul Bert dans le 11e. Toute la liste à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Le statut des femmes au bistrot.
Alors là, ce qui vient d'être dit relève d'abord, là encore, d'une vieille tradition avec les femmes derrière le comptoir. Hein, d'abord, dans les grands cafés, leur côté accorte, la belle limonadière, par exemple, en 1782, mais aussi souvent les veuves de bistrotiers qui gardent l'affaire, ou alors des veuves d'anciens combattants qui se voient octroyer dans les années 20 la possibilité d'ouvrir un bistrot. Donc, la femme derrière le comptoir. Mais il y a autre chose. Il y a aussi cette idée que les femmes au bistrot ont longtemps été des cibles. On se faisait emmerder, en gros. Une femme pouvait pas être au bistrot. Le bistrot était un lieu viril, viriliste. Et il se trouve que le bistrot, en ce moment, faut quand même le dire, à un moment donné de l'émission, est en grand danger. Il y avait 508 000 bistrots en 1938, il n'y en a plus que 34 000 aujourd'hui. Et le bistrot est en train de disparaître au moment où il n'a jamais été aussi vivable. Et en particulier aujourd'hui, les femmes au bistrot ne sont plus des cibles comme elle était autrefois. Il y a une vie des femmes au bistrot. Bon, donc il y a vraiment cette possibilité de rencontrer quelqu'un normalement et de ne pas se faire agresser, ennuyer. J'ajoute que le témoignage de cette dame renvoie aussi à une réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes vigneronnes qui sont exceptionnelles. Je vais citer Anne Parent, Pommard par exemple, que j'aime particulièrement. Mais il y a une science des vins actuellement et une faculté féminine de faire évoluer les vins qui est à noter et que l'on retrouve tout à fait dans ce témoignage.
Clientèle très mixte, Thomas Brachet, aux Arlots, Paris 10e, votre bistrot.
Très mixte, international, du quartier. Ce qu'on aime vraiment, c'est voilà, tu viens pour un déj d'affaires et après, en fait, tu t'aperçois que les gens y reviennent avec ou leur petite amie, leur, enfin, en tout cas, en date.
Un date, un rendez-vous.
Oui, on avait la ref, cher Dominique. Et un lieu où l'on...
J'allais dire, Cannes Bourdois, elle me disait aussi qu'elle organise des mariages d'habitués qui maintenant se marient dans son bistrot.
Ah oui, d'accord.
Donc qui sont rencontrés dans son bistrot et qui se marient dans son bistrot.
Il y a consanguinité.
Et aux Arlots, on peut déguster aussi l'un des totems bistrotiers, là encore, du répertoire culinaire. C'est la terrine, le pressé. Vous nous avez apporté cette divine terrine. Allez, tous un coup de couteau pour nous dire ce que vous en pensez. Moi, je l'aime beaucoup.
J'en ai apporté deux. Hein.
Alors, il y a d'abord une terrine que moi j'aime particulièrement, on peut parler de terrine signature, même si j'aime pas trop l'expression.
Je crois qu'on a trouvé une bonne recette, et celle-là, j'ai pas envie de la changer, ou je la change vraiment que très peu, parce que je trouve qu'elle est vraiment aboutie.
Il y a un bon goût de foie, il y a de la rondeur aussi.
Il y a de la rondeur, il y a beaucoup de gras, mais t'as pas la sensation de gras, parce qu'il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de porto, des abricots pour le sucre, donc ça va venir...
Des abricots séchés.
Ouais, abricots séchés, quelques noix pour ceux qui sont allergiques, beaucoup d'alcool, et un assaisonnement, beaucoup de genièvre, du 4 épices, du poivre de Jamaïque, donc en fait elle est riche en assaisonnement.
Il y a de l'amour aussi.
Et oui, mais je parlerai d'amour après, pour moi ma définition de l'amour, même ou sinon si je peux le dire maintenant.
Votre définition de l'amour là tout de suite?
Ouais, moi je pense que l'amour dans le restaurant, c'est de l'attention, c'est des preuves d'amour, et donc l'attention au restaurant, c'est du temps. Une fois qu'on a fait la préparation, qu'on a fait tout un cheminement, c'est qu'en fait, il faut s'arrêter et vraiment prendre le temps, c'est ça l'amour, de goûter tous ensemble et dire, tiens, qu'est-ce qui manque? Du sel, une petite pointe d'acidité. Et en fait, là, la magie, tu l'appelles comme tu veux, mais en fait, voilà, c'est ça. L'amour, c'est le temps. C'est ça qui fait que c'est bon.
Laurent Bille, un petit commentaire.
Alors moi je suis sur l'autre terrine.
Oui, qui est plutôt
entre pâté de tête et jambon persillé. Alors elle appelle le blanc. Alors là complètement le blanc. c'est quelque chose de formidable, même s'il y a quand même cornichons. Alors il y a les pros et les anti-cornichons. Hein, mais je dirais que sans entrer dans la guerre des cornichons...
Toi tu es anti ou pas?
Je suis anti. Ah, le temps... Oui, parce que pour le vin, le cornichon c'est la catastrophe.
Ah, ça lui casse la gueule.
C'est la catastrophe. Mais pour le temps, le café c'est l'endroit où l'on prend son temps. Le bon café, le café authentique, c'est l'endroit où l'on quitte sa montre, où l'on éteint son porte-truc, son portable.
Smartphone.
Je n'en ai pas, donc je ne sais pas comment ça s'appelle.
Ah oui, c'est vrai.
Je n'en ai pas.
Ça a été compliqué de vous joindre d'ailleurs.
Je n'ai pas de portable. On me joint au café, monsieur.
Ben,
et donc, j'ai des adresses le matin, on me joint. Et donc, bref, le café, c'est le moment où justement le temps est suspendu. Et en ça, c'est quelque chose qui est totalement suspendu dans notre société d'aujourd'hui.
Illusion, le nouveau titre de Jalen Gonda, le nouveau talent de la rétro soul américaine.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Aujourd'hui, plein pot sur le bistrot en compagnie de Thomas Brachet, qui est carrément au-dessus de la plaque de cuisson en train de nous préparer une petite surprise qui grésille dans les casseroles dont on va déguster. C'est le chef des Arlots, un bistrot de cœur, vous l'aurez compris, du 10e arrondissement de Paris. Nous sommes également en compagnie de Laurent Bille, historien et auteur d'une fabuleuse histoire populaire des bistrots Nouveau Monde Édition. Une très très chouette lecture pour se replonger dans l'histoire palpitante de ce monument de notre culture française, en fait, hein, si l'on peut dire.
Ah, absolument.
Le bistrot, cher Laurent, recouvre bien des réalités et la preuve, c'est cette diversité qu'on a commencé à aborder, cette diversité sémantique qui recouvre l'univers du bistrot, celle qui la décrypte pour nous. Toujours dans le documentaire Les Très Très Bons Bistrots, c'est Marcel Ratafia, autrice, journaliste spécialisée dans le Paris populaire et l'argot.
Une gargote, alors c'est un endroit où on mange pas terrible, mais on boit des coups. Un cabaret, c'est plutôt un endroit où on fait que boire des coups. Il y a aussi les bibines, où là, c'est strictement un truc pour se bourrer la gueule. En fait, les bibines, c'est vraiment ce qu'a observé Zola quand il a écrit L'Assommoir. Il y a aussi le troquet, qui est plutôt antérieur, qu'on appelle à l'origine le mastroquet, mais qui est devenu, bon, le troquet, c'est plus court, et le caboulot. Et en fait, tous ces mots-là vont un peu disparaître au profit de bistrot. C'est un mot peut-être plus fort et plus englobant. Et finalement, on n'en avait peut-être pas besoin de tant que ça. Et puis peut-être que ce type d'établissement a fini par disparaître et tout a fini par ressembler un petit peu au bistrot.
Bon, beaucoup de mots, hein, qui, effectivement, sont plus ou moins éloignés de la notion de bistrot. Il y a un mot qu'on a oublié. Et qu'on continue pourtant encore à employer. Est-ce que vous me voyez venir, Laurent Bille ?
Ah, le mot zinc, je pense.
Mais oui, le mot zinc.
Alors là encore, c'est comme bistrot. Il y a une histoire comme ça qu'on raconte, que le terme zinc vient de l'allemand zin, parce que les Allemands avaient réquisitionné les comptoirs en étain en 1944, et donc finalement, zinc, on a appelé ça zinc. Bon, faut arrêter les bêtises.
Foutaise, c'est ça.
C'est ça, oui. Donc, c'est, là encore, mais c'est ça, le génie du lieu, c'est de faire naître de belles histoires. Et pourquoi n'y aurait-il pas de belles histoires ? Vive les histoires fausses, pour que justement, je garde un peu le métier, et que je puisse rétablir un tout petit peu une vérité historique.
Cuisine, la cuisine, c'est de la mythologie.
Exactement, vive les histoires, vive les contes. Non, l'idée, c'est que vous avez des comptoirs en étain et en zinc, mais surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que Zola, comme Huysmans, emploie le terme étain et le terme zinc comme des synonymes. Ils s'en fichent. Je dirais que l'important, c'est de bien comprendre qu'une ordonnance en 1816 a prohibé les comptoirs en plomb. Le vin était tellement acide et tellement trafiqué que le vin qui tombait dans les comptoirs en plomb faisait une mousse violette qui, justement, a donné la qualification de vin bleu. Ce vin bleu qui trouait l'estomac. Et quand on voit les traces de ces gouttes de vin qui réactivaient chimiquement le plomb du comptoir, on imagine ce que cela faisait aux organismes à une époque où le bistrot rimait avec assommoir, avec alcoolisme et donc avec désastre social. Ah. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que derrière la mythologie, il y a aussi le désastre social des assommoirs, désastre dont nous sommes aujourd'hui sortis, et c'est justement ça qu'il faut notifier.
Et Émile Zola utilise effectivement le vocable « zinc » dans le ventre de Paris, datant de 1873, qui est cette formidable fresque qui a pour épicentre, pour lieu, évidemment, les Halles Baltard, les Halles au cœur de Paris.
Absolument. Mais cette histoire d'alcoolisme, elle est vraiment importante.
Bien sûr, on en parlera peut-être avec...
Il faut vraiment voir que le bistrot a été catastrophique et que le bistrot, aujourd'hui, par le choix des vins qu'il propose et par le prix des vins qu'il propose, est devenu au contraire un lieu où l'on se régule de soi-même et non plus on va dépenser la paye du samedi.
Vous nous confirmez, Thomas Brachet, qu'il y a un comptoir aux Arlots et un comptoir qui prend de la place, qui a du charisme, si j'ose dire, et où il se passe beaucoup de choses. On peut même s'y attabler quand on est seul pour y manger une assiette.
Seul ou à deux. Alors, il est énorme.
Il est imposant.
Il a peut-être pas la vie qu'il devrait avoir et qu'il a eue. On ne pouvait pas l'enlever parce que c'est le totem, c'est le décor. Le sol en casson et le comptoir de 1950, on a acheté, quand on a repris les Arlots avec Tristan, c'était immonde. Et en fait, en faisant la magie des travaux, quand on a cette base-là, le sol défoncé, en caçon, typique des années 50 et ce comptoir en bois...
Il y a de formidables piliers en métal aussi, hein.
Ouais, voilà. En partant de là, on a réussi à recréer un endroit qui fait pas faux, et on a l'impression que ça a toujours été là, parce qu'on a brodé autour de ça, de ce comptoir, qui était d'ailleurs... les gens étaient plus petits à l'époque, et qui est surélevé, et on voit encore qu'il faisait un mètre genre 10, ou même peut-être un peu moins.
Vous avez des marques de dents sur le comptoir ?
Comment vous dites ?
Vous avez des marques de dents sur le comptoir ?
Oui, on les a.
Un plat qui a aussi toujours été là, sur votre ardoise, depuis les débuts des Arlots en 2017, si je ne m'abuse.
Oui, oui.
Vous avez d'ailleurs fêté le combienième anniversaire en mars dernier ?
C'était nos 8 ans.
Nos 8 ans, c'est ça. C'est la saucisse purée.
Oui, c'est devenu notre plat signature. C'est un plat très simple en apparence. Après, nous, on s'envoie bien, on sélectionne bien la viande.
Vous faites vos propres saucisses, vous les embossez.
Avec une bonne viande. En ce moment, on le fait un peu comme un peu à la manière d'un porc-monnier, avec des blettes, des épinards, des poireaux, une petite touche italienne avec des graines de fenouil. Pour apporter le côté, on va dire, sapide, on vient y rajouter de la poitrine de bellota séchée. On a envie que ça soit une explosion de saveur. Elle est toujours bien grillée. On récupère un peu de gras de cuisson qu'on va mélanger à notre base de jus. Et on fait une purée, on va pas dire comme Robuchon, parce que sinon c'est...
Robuchon, c'est beurre et pommes de terre temps pour temps. Donc ça fait beaucoup.
Voilà, on diminue un peu les quantités, mais en tout cas, on fait que pommes de terre, lait entier et beurre.
Oui.
Et donc, on fait quand même quelque chose d'assez riche. Et c'est ce qui fait que, quand normalement, on ne s'est pas loupé, on passe au moins 5 minutes à penser à quelque chose d'agréable.
Voilà. Vous avez oublié un truc quand même dans la saucisse purée.
Le petit jus de viande dans la purée.
Le petit jus, on peut faire des cratères comme chez maman. avec le petit lac de jus que l'on creuse au sein de la purée, qui est bien ferme quand même.
Ouais, exactement, comme chez maman, mais avec un peu d'alcool en plus quand même. Quoi.
Oui, voilà. Avec un peu d'alcool en plus.
Je crois qu'il faut se rappeler une époque où, en particulier à proximité des Halles, mais en fait dans tout Paris, vous aviez des travailleurs qui débardaient et qui apportaient au bistrot leurs morceaux de viande ou leurs morceaux de poisson parce qu'ils avaient été payés en nature, parce que on ne déboursait pas son liard, on payait en nature et on apportait sa pièce de viande à faire cuisiner. Donc le bistrot était connu par les qualités culinaires de la patronne. Vous avez un film que Dominique Cutin aime beaucoup qui montre bien ça, c'est Archimède le clochard, dans lequel, et mon père qui débardait aux Halles avant d'aller en fac pour gagner justement un peu pour manger, il apportait son morceau de viande à une patronne qui lui faisait à manger
avec à
ce qu'il avait apporté du jour. Et donc, en fait, le bistrot, c'était ça.
C'est un temps malheureusement révolu. Allez, juste un peu de teasing en attendant la chronique de Dominique Hutin. Qu'est-ce que vous nous préparez là ? C'est quoi qui grésillait ?
C'est les tripes qu'on fait en ce moment. Les tripes un peu entre la Corse, parce que c'est un peu un des emblèmes de la cuisine corse, les tripettes de veau. Un peu aussi parce qu'on aime bien voyager sans que ce soit fourre-tout, mais les tripes à la madrilène. Parce qu'on aime bien le cochon, donc voilà, ça résume bien notre philosophie.
Votre syncrétisme culinaire.
Ouais, ça résume bien notre philosophie, parce que on va faire un bouillon de pied de veau cuit 24 heures, on va faire un fond blanc de volaille de façon très classique, et on va venir réaliser le plat avec ces deux bouillons, pour avoir après une concentration, une cuisson par expansion, et tout ça avec le souci de terminer bien. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on part de plein d'ingrédients et on va venir arriver à quelque chose qui est... On prend du plaisir à faire ça, hein, et qui est ultra concentré, riche, qui colle au palais, et effectivement, qu'on ne peut pas refaire forcément à la maison. Hein, ça, c'est un peu plus...
Et c'est sûr. Et quand vous aurez goûté ça, vous m'en direz des nouvelles. Vous allez nous dresser quelques assiettes, Thomas Brachet ?
Je suis ravi. Hein,
sans trop vous commander, évidemment.
On va déguster sur France Inter.
Dominique Hutin, avec votre gouaille, votre culture, votre vêtement de travail, vos jajas, vous êtes un peu le client idéal des bistrots en fait. Hein.
Allez voilà, costume taillé, c'est bon.
Mais c'était une brochette de compliments.
Oui, j'entends bien. Vous serez récompensé aujourd'hui d'une chronique écrite au comptoir pour démontrer quasi scientifiquement que la piquette est tous les vins légers qui sont dans son sillage sont l'avenir d'Homo Bistrotus et de ses descendants. Des générations de sages que Jean-Marie Gouriot a immortalisé dans Brève de comptoir.
Bien sûr.
Et voilà, décliné en livre, au théâtre, tiens, au cinéma. Saga dont vous rapportez, Laurent Bille, la genèse dans votre histoire populaire des bistrots. Jean-Marie Gouriot, d'ailleurs, tiens, vous pourriez partager son statut d'historien du bistrot, puisque c'est assis au bistrot que cet ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo a collecté les perles de certains prix Nobel du goulot. Je cite. Elle est arrivée enceinte au mariage. Et alors ? T'arrives bien bourré au bistrot, toi ? Michel, t'as enlevé la pendule, on n'a pas le droit d'avoir l'heure. Et alors, tu bois un demi à la minute. Bah, t'as qu'à compter. Au bistrot, je me fais engueuler. À la maison, je me fais engueuler. Bah, à la limite, je préfère au bistrot. Voilà.
Vous avez... pas mal.
Vous avez beau semer des graines d'académicien, il faut quand même les arroser de temps en temps. Donc, je vous ai rempli vos verres, chers amis. Dégustation en forme de devinette aujourd'hui, puisque tous les vins qui sont servis présentent un point commun. Je vous laisse le trouver. Alors, des blancs, des rouges. Peut-être que vous pouvez souligner la couleur légère de ces vins-là.
Moi, j'ai un rouge très, très pâle. Oui. Et je sais ce que c'est, parce que vous me l'avez dit. Et ce que j'aime beaucoup, c'est pas, c'est du gros lot.
Oui,
bravo. Mais on est sur des choses assez légères, pas trop tanniques, pas trop corpulentes.
Exactement. 11 degrés maximum.
Ah, c'était le degré d'alcool.
C'est le degré d'alcool. 11 degrés maximum. Donc, vous avez un Savoie, par exemple, Céline et Thierry Tissot, avec une Jacquère, un Touraine. Bravo, chers Zazie, Catherine et Pierre Breton, aujourd'hui épaulés par leur fille France, cépage Grelot, c'était ça. Un Buget, on est dans l'Ain, les Mangeux de Pierre avec une mondeuse. Et puis Vergaillac, mon coup de cœur, le domaine des Pierres de Lune, baiser salé, un blanc de macération, qui était produit par une néo-vigneronne, Aurélie Latex.
Ah ben on en parlait.
Voilà, les femmes sont là. Et un vin, vous voyez, assez constitué, fluide certes, mais jamais maigre. Et donc, vous en trouverez une quarantaine dans mon carnet de dégustation à partir de 5,50 €. Alors ce carnet de vignes à télécharger sur notre site, il est aussi porteur d'un scoop mondial puisque certains des vignerons proposent leur premier millésime. Alors tous ces vins, je fais le pronostic, ils vont trouver leur public assez facilement. D'abord parce que la société a revu son rapport à l'alcool. Ensuite parce que ces vins sont porteurs d'un message qui est accessible, qui est décomplexé et qui a même de séduire finalement les nouveaux consommateurs qui, eux, ne sont pas vraiment en phase avec tous ces vins qui, bah, d'abord ont un discours un petit peu alambiqué, il faut bien le dire, et puis aussi des vins dont le réchauffement se charge de hausser le degré alcoolique. Et puis enfin, c'est une tendance mondiale qui réclame les boissons fraîches et légères. Alors bien sûr, on peut désalcooliser, mais le risque, c'est d'accoucher de vins qui seraient triturés, des vins technologiques. Un petit peu à l'image des vins sans alcool qu'on connaît aujourd'hui, dont beaucoup sont produits dans ce charmant pays qui s'appelle l'Arnakistan. Et le meilleur accord à table pour ces vins-là, c'est le pigeon, bien sûr. Donc ces vins d'alcool modéré, eux, relèvent de plusieurs approches naturelles. Je cite celle du domaine Beauregard-Mirouze, on est là dans les Corbières. Ils ont procédé à des vendanges précoces, de raisins mûrs, j'insiste bien, de raisins mûrs avec des cépages adaptés, sur des terroirs froids ou frais, tout le moins. Ils ont mené une culture biodynamique et bio et ils ont constaté que ce type d'agriculture permettait des maturités phénoliques plus rapides que la maturité alcoolique. Et enfin, des vinifications avec des levures indigènes plutôt que des levures ajoutées qui, elles, sont trop portées sur le degré alcoolique. Alors, tout ça est effectivement un petit peu technique. Voilà l'antidote. Les globules rouges transportent l'oxygène. Les globules blancs défendent l'organisme. Mais les globules rosés, je ne sais pas.
Oh là là, Dominique.
Oh là là. Aujourd'hui, ces vins de zinc reviennent donc amuser un petit peu le bistrot avec une écriture qui est beaucoup plus naturelle, mais toujours goût ailleurs, avec ce joli champ lexical, puisque depuis toujours, les lieux de boisson ont été le théâtre du talent illustratif de ces piliers de comptoir qui se sont employés à documenter, disons, certains excès qui peuvent amener, par exemple, à se peinturlurer le tarbouif, sarsouiller la terrine, s'inonder le corridor, se goudronner le vestibule ou se graisser le toboggan. Voilà, donc vous comprenez bien, dès lors, qu'il n'y a pas besoin de passer le langage du vin au carbone 14, il a l'âge de ses artères. Enfin, ici s'arrête cette chronique du jour. L'heure, c'est l'heure, François-Régis Gaudry.
J'allais le dire.
Et l'heure, c'est l'heure.
L'heure tourne.
C'est l'occasion de rappeler ceci. Rembrandt, il peignait des deux mains. Bah, c'était pour finir plus tôt.
Juste un ajout, le café est un lieu satirique. Hein, on se souvient des dessins de Reiser.
au comptoir pour accompagner les chroniques de Goriot.
Quel talent.
Voilà, absolument. Et on termine cette émission par, évidemment, un petit commentaire de dégustation autour de ce plat prodigieux qui défile sous nos micros. Ce sont vos tripes. Vous faites des tripes absolument extraordinaires. Et là, tout d'un coup, il y a Zazie qui écarte la fourchette parce qu'elle a un problème avec les tripes. Non, ça va, je vous ai outé, alors, Zazie.
Je suis pas très tripe, mais je vais goûter parce que je suis pas très tripe.
Je suis curieux d'avoir ton ressenti, Zazie.
Wow. Du coup, c'est d'une profondeur.
C'est bon quand même.
Un moelleux absolument voilà. Fabuleux.
C'est évident, mais ce qu'on aime bien, c'est quand il y a quelqu'un qui te dit « moi, je suis pas très fan », et ça parle, et on revient à la confiance, c'est que une bonne chose bien faite, c'est bon, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Donc, j'aime pas les tripes, et en fait, je crois que j'aime ça, tu vois, quand c'est une bonne... quand la matière première est bonne, que ça a été réalisé correctement...
C'est complètement dingue. Moi, je trouve que c'est étourdissant de profondeur et de goût. Non, Dominique, les tripes...
Oui, je suis pensif. En fait, on a des invités qui transforment la Maison de la Radio en Maison du Bonheur. Ouais. C'est un dimanche exceptionnel.
Extraordinaire. Je ne saurais trop, malheureusement, on se quitte, recommander d'aller au Zarlo, l'un des tout meilleurs bistrots de Paris, si ce n'est pas le meilleur. Mais pour ça, il faudra voir le documentaire de Très Très Bon. Je fais un peu de teasing, évidemment, qui sera diffusé le samedi 1er juin à 19h55 sur Paris Première. Merci beaucoup Thomas Brachet pour votre générosité.
Merci à tout le monde.
Une histoire populaire des bistrots chez Nouveau Monde Édition. Ce gros pavé absolument stimulant.
Pour sauver l'édition, pour sauver les libraires et pour sauver les bistrots, allez lire au bistrot.
Ah, ça c'est une bonne idée. C'est préfacé en plus par Pascal Horry et vous nous avez fait une petite surprise. Alors on n'est pas vraiment dans un vin de bistrot à la Dominique Hutin. On sera plus dans un grand cru parce que vous avez fait un peu de spéléologie dans votre cave, Laurent Bille.
C'est un Bandol du domaine Bunan 2001. Oh là. Alors c'est vrai que l'année, bon, c'est un vieux millésime. C'est une année particulière, très chaude.
Et très bonne à Bandol.
C'était pas comme 1983, l'année Simoun, de très grande mémoire, mais c'est quand même une très bonne année. Mais le Bandol est encore un vin accessible. C'est un vin qui est quasiment 100% Mourvèdre. Et c'est un vin pour aller avec les tripes, qui est particulièrement, on va dire, on s'est bien rencontrés.
Allez, on va se régaler.
Délicieux.
Et pour se quitter, on trinque, comme au bistrot, évidemment.
À la vôtre.
Allez, à la tienne.
À la vôtre. Merci à tous et toutes, à dimanche prochain, si vous avez encore faim.